Voyage, vacances, novlangue et manipulation. Sur Instagram, près de 20 millions de publications sont liées au seul mot clic. Je soutiens le Québec dans sa croisade pour éviter les anglicismes. Ceci est donc la traduction française du hashtag Travladict. Comprendre accro au voyage. Malheureusement, le terme francophone est un peu moins attirant et nous renvoie aux connotations négatives du terme, comme un junkie en errance. Ce type de mot-clic mérisse le poil, presque autant qu'une lycéenne de Sucy-en-Brie qui se revendique actrice après avoir fait 4 TikTok, ou que cette pseudo-star de télé-réalité vantant les mérites d'un anti-ride depuis un transat Dubaï-Yacht. CES dernières qui ont d'ailleurs presque toutes le mot « travel » ou « voyage » dans leur phrase de présentation sur le réseau au Polaroid, aux côtés des traditionnels « lifestyle » et « mode », bien sûr, on n'oublie pas les classiques. Dans tout ce marasme, il m'a semblé important de faire un point et de distinguer la notion de voyage et celle de vacances, qui sont pour moi deux concepts antagonistes. À travers cette analyse, nous allons aussi évoquer brièvement le rôle de la sémantique et l'impact dévastateur de la novlangue. Différence entre voyage et vacances, selon moi. Le voyage représente quasiment un sacerdoce, tant il demande de l'implication personnelle, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, de l'abnégation et du courage pour se confronter à soi-même et à ses peurs, afin d'opérer des métamorphoses internes qui élargissent, in fine, le champ des possibles. Il s'agit donc de se dépasser, de se découvrir et d'essayer de domestiquer la versatilité de l'inconnu. Dans cette démarche, essayer le plus possible de ne pas utiliser l'argent comme sésame est une condition sine qua non, tant il représente et symbolise au plus profond de nous-mêmes le confort, le connu et la sécurité, au sens de la planification et donc de la réduction de l'imprévu. Les vacances jouent quant à elles un rôle beaucoup plus frivole, généralement axé sur un plaisir immédiat, avec le rôle de décompression et de relaxation qu'on leur connaît, rendu possible par le fait de rester dans la sphère du connu ou du prévu. C'est un échappatoire temporaire à un quotidien, tant professionnel que social, étouffant. Le voyage revêt donc ici un caractère plus narcissique, plus basique. On n'attend pas grand-chose de l'autre que la servitude à son propre plaisir. On recherche la corroboration. Tout est vu comme un billet pour atteindre le bien-être. Ici, pas de remise en question, pas d'effort, pas de dépassement de soi, du moins de manière continue. Cette notion de continuité est importante pour moi, puisque c'est la seule manière de se confronter tant au positif qu'au négatif. La contrariété n'est pas admise et ne doit pas exister. C'est d'ailleurs un lot commun que de penser les vacances comme l'absence de contrariété. Et tout converge dans ce sens. Le choix de la destination est alors bien souvent réduit aux simples critères météorologiques combinés à des paysages jugés beaux. Attention ici, je ne me mets pas sur un piédestal, me considérant comme voyageur et jugeant du haut de mon mirador toutes les autres formes de voyage. Je suis conscient de ma chance, conscient d'avoir gagné à la loterie de la vie et aussi pleinement conscient que le fait d'avoir une case départ, en l'occurrence mon appartement ou même la maison familiale, me permet de me rattacher à un endroit et donc de délimiter mon voyage. Je ne suis pas un voyageur de l'extrême. Je reste un touriste de ma propre vie, sans cesse à la recherche de ceux qui me fera palpiter moi, dans une quête finalement égoïste, à la recherche avant tout de moi-même. Mais à la différence des dispositions intentionnelles qui régissent un vacancier, cette quête égoïste ne concerne ni le confort matériel, ni le plaisir individuel, mais bien la métamorphose de l'ego au prisme de sa rencontre avec l'inconnu. Ainsi, le voyage se situe bien plus dans l'état d'esprit que dans la simple mobilité géographique. Non, on ne peut pas se prévaloir d'être un passionné de voyage lorsque sa seule préoccupation est de s'extirper de son quotidien aliénant et de partir, dans le seul et unique but d'améliorer de manière temporaire son confort et son moral, à grands coups d'hôtel, de restaurant, de piscine, de mer turquoise et de soleil. Et oui, on retrouve très peu de ces pseudo-voyageurs dans les hautes latitudes. Dans ces cas-là, vous êtes des passionnés de vacances, tout simplement. Changez-moi le mot « click » « travel addict » par un « holiday addict » et nous resterons bons amis. Il est vrai que se dire passionné de vacances n'est pas très chevaleresque. Ça fait même un peu nanti et cossard, comparé au voyageur qui, lui, revêt des attributs bien plus nobles et louables. C'est bien là le problème, par l'utilisation de ce terme flatteur, on tente de maquiller la réalité, de se déculpabiliser et de se vendre. Cette utilisation de termes plus vendeurs que d'autres, à des fins fallacieuses, me dérange grandement. L'usage et la plasticité du langage paraissent si naturels, si anodins, si inoffensifs. On pourrait finalement se dire qu'entre voyage et vacances, chacun est libre de mettre ce qu'il souhaite derrière ces concepts. Mais non, en tout cas pas selon moi. Et c'est d'ailleurs à cause de cette considération que je me devais de clarifier la différence sémantico-syntaxique entre le voyage et les vacances. Je pense qu'il n'est pas normal, ni même légitime, de redéfinir à sa guise le sens des mots. En logique, et ce depuis Kant en passant par Frege, chaque intention, concept, possède sa propre extension, sens. Et l'extension, donc ce à quoi on fait référence, est fixe, invariable et immuable. Cette stabilité extensionnelle est la base du langage. Détruire cette fixité le condamnerait à devenir poreux, de substantivé et à terme. Cela entraînerait la destruction du monde qu'il caractérise. C'est pourquoi mélanger deux concepts différents en personnalisant leur extension en fonction d'une mode sociétale douteuse est pour moi un crime logico-linguistique. Pensée et sémantique. Chaque mot a un sens précis, ce qui nous permet de nuancer nos propos et de construire des raisonnements profonds, rigoureux et détaillés. Et pourtant, nous sommes face depuis ces 10 dernières années à un déclin exponentiel du vocabulaire et des structures syntaxiques, anéantissement des connecteurs logiques, des conjonctions de coordination, dans la communication des Français, spécifiquement chez les plus jeunes. Le simple fait de posséder un niveau de français correct devient l'apanage privilégié d'intellectuels bourgeois et conservateurs, alors qu'à l'inverse, utiliser voire même faire l'apologie de cette novlangue, Coucou Combini et leur série de vidéos Lexique de la Street, par exemple, est un synonyme d'ouverture et de progressisme, toujours considéré comme fondamentalement bon. L'école, vecteur privilégié de l'apprentissage du langage et de ses règles, rebat chaque année les cartes de son exigence en matière de vocabulaire, de grammaire et de conjugaison. Ce n'est plus aux enfants d'exercer leur cerveau à intégrer les règles de la langue. C'est la langue qui doit désormais simplifier ses règles pour être apprise. Or, simplifier la langue revient à simplifier les pensées et à leur donner une direction toujours plus unilatérale. Cette simplification du langage nous mène de manière inéluctable vers une uniformisation et une convergence globale. Le vocabulaire se consume pour ne garder que le strict minimum aux nécessités triviales. La pensée ne peut choisir qu'entre « bon » ou « méchant », « beau » ou « moche », intelligent ou stupide. Ces oppositions binaires ne font que renforcer la dictature du pour ou contre et favorisent un tribalisme facile et superficiel dans notre société, formation de communautés basées sur un triptyque culturel, idéologique et politique, alors même que ces pseudo-communautés n'existent que pour ceux qui les mettent en avant et s'en servent à des fins fallacieuses. Par exemple, on a pu voir de nombreux reportages intitulés « Qui sont les anti-masques ?» d'un fait anodin, ont créé une communauté qui partagerait une idéologie, un positionnement politique et une culture commune. À partir de là, il devient très simple de créer un archétype et de lui faire revêtir ce que l'on souhaite. Une fois que ce paysage peuplé d'archétypes est bien intégré, il devient très difficilement questionnable. Il y a donc le « bon » et le « mauvais » comme le traçage d'un chemin de pensée à emprunter. Cela permet d'avoir un avis tranché préfabriqué et prêt à l'emploi sur des sujets vastes et variés, sans même en connaître les tenants et les aboutissants. Orwell, Sapir-Whorf, H. Ebbinghaus. J'entends donc le terme « novlangue » au sens orwellien, c'est-à-dire une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement subversives. Lui visait la critique de l'État et de la politique en général, lorsque moi, je généralise ce terme de novlangue à la manipulation générale des individus, au sens large. Pour moi, ça comprend donc tous les nouveaux termes, qui n'ont généralement pas de définition très précise, puisque leurs origines sont souvent mixtes, floues, voire même contestées. Cela englobe aussi les interprétations erronées et l'usage biaisé de termes existants jusqu'à leur faire perdre leur sens originel. Tout est lié et interdépendant, il me semble donc important de souligner que cette tendance à redéfinir les mots, voire même à en inventer de nouveaux, est une mouvance globale extrêmement néfaste au développement humain. Tous les nouveaux termes sont généralement extrêmement simplistes. On remplace un groupe de mots par un seul terme censé incarner tout à la fois. Par exemple, les mots « joyeux », « agréable », « distrayant », « plaisant », « jovial », « distractif » sont tous sacrifiés au nom du simple « feel good ». Il n'y a pas de nuance, pas de degré, pas de profondeur. C'est juste « feel good ». Nous sommes complètement dans l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui consiste à dire que sa vision du monde dépend du ou des langages employés pour exprimer sa réalité et plus profondément que la structure grammaticale et syntaxique du langage détermine notre propre perception du monde. Jouer sur le langage revient donc à jouer sur la forme même de la pensée. Détruire un langage existant mène à la destruction du monde qui l'accompagne. Si on combine les travaux d'Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf avec ceux de Solomon Asch, à l'origine de ceux que l'on a appelé l'expérience d'Asch sur le conformisme, le cocktail devient détonnant. Puisqu'en plus de démontrer le pouvoir du conformisme sur les décisions d'une personne au sein d'un groupe, Asch va plus loin, en démontrant l'importance des mots dans les questions qui sont présentées aux cobayes lors de son expérimentation, qui oriente les réponses et donc manipule les sujets pour aboutir à la formation d'une opinion biaisée. Cette stratégie est largement utilisée par le gouvernement et les médias de masse pour expliquer la situation que nous traversons actuellement et les mesures complètement déraisonnées qui l'accompagnent, qui en fait servent un autre but, mais c'est une autre histoire. Il s'agit d'utiliser ce que l'on appelle des biais cognitifs, qui échappent à toute logique ou rationalité, mais qui jouent sur les limites cognitives et ou les émotions. Je terminerai par évoquer l'importance de la courbe d'Ebbinghaus, ou courbe de l'oubli, dans les débats publics et de se questionner sur les messages qui nous sont martelés et ceux qui nous sont savamment distillés de manière ponctuelle, quelques voix dissonantes par-ci, par-là. Cela nous aide aussi à comprendre la durée de vie d'une information et pourquoi on ne revient pas dessus alors même que cette dernière ait été déclarée comme fausse. Ce nouveau monde qui se dessine à travers la novlangue est celui de l'opposition perpétuelle et donc de la division. Utiliser les termes à bon escient ne relève pas du tout de l'anecdotique, il en va de notre survie. Cela reste mon avis, qui est sujet à débat et controverse. Il est sans doute incomplet et sera amené à changer. Comme tout, rien n'est immuable. Il faut se donner la chance de pouvoir changer. Je vous encourage à vous informer par vous-même, rechercher l'information et tenter de l'analyser. Se questionner, toujours se questionner, ne jamais croire aveuglément.